ぽかぴぽかぴ、
toujours heureux de vous retrouver dans cette tribune de la presse. Retour sur les faits marquants de la semaine qui s'achève. Rwanda, Ouganda, Burundi et RDC toujours confrontés au problème des groupes armés. Les délégués de ces quatre pays se sont réunis cette semaine à Lubumbashi. Ils se disent toujours engagés à mettre fin à l'activité des rebelles et à ne pas en soutenir chez leurs voisins. Et de notre côté, les représentants religieux de ces quatre pays veulent être aussi plus actif dans la résolution de ce problème. Réunis à Bukavu cette semaine, ils se proposent donc de parler avec les groupes armés. De l'Est, nous reviendrons à Kinshasa, où la retenue à la source des 40% des recettes provinciales était au centre des discussions. Autorités provinciales et celles du gouvernement central ont trouvé un compromis. La retenue débutera en septembre. Les modalités restent à fixer. Nous en parlerons donc. Et autre fait marquant de la semaine, c'est la méfiance entre les gouverneurs et leurs assemblées. Au Kassai occidental, la motion de censure à l'endroit des trésors Kafuku a été votée. Kinshasa, le gouvernement Kimbuta a été investi en l'absence de plusieurs députés provinciaux de l'opposition. Et Nord Kivu, les suspens demeurent. Nous évoquerons donc tous ces points avec nos confrères de la presse. Aimé Dionzo de la radio catholique Elikia, Joseph Alain Kabongo du journal Le Phare. En ligne de Goma, au Nord Kivu, nous espérons avoir Albert Moïssa, rédacteur en chef de la radio-télévision La Colombe. Et depuis Kikwit, Frédéric Upani, correspondant au journal L'Observateur. Nous disons donc bienvenue à tous.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
La réunion de la tripartite plus 1 a pris fin jeudi à Lubumbashi. Les délégués de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda discutaient des problèmes d'insécurité causés par les groupes armés. Écoutons à ce sujet le ministre d'État congolais en charge des affaires étrangères, Antipas Mbusa, est satisfait.
Quel est le prix de la paix dans la région, malgré vos réunions, plusieurs sessions, on ne voit pas. Je crois qu'il faut quand même voir les choses dans leur juste dimension. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont évolué. Il y a de cela quelques années, on ne se serait pas mis avec mon ami et frère le ministre rwandais de la Défense comme ça, ensemble, en train de discuter dans toute l'amitié, la compréhension mutuelle, le respect mutuel, en train de rechercher toutes les solutions à nos problèmes. Je pense que c'est une grande évolution. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce n'était pas possible ça. Il faut reconnaître qu'il y a des évolutions. Nos réunions ne sont pas inutiles, elles sont très importantes. Même celui qui en appelait au rétablissement de la relation diplomatique, je pense que l'évolution de la cohésion entre nous, de la compréhension mutuelle, de la compréhension de nos problèmes de la même manière, va à coup sûr. Et je l'imagine à court terme nous amener à l'établissement de la suite diplomatique. Nous n'avons pas d'autre choix.
Antipas Mbusa Nyamisi, ministre d'État en charge des affaires étrangères, il était au micro de Paul Kaboba. Alors, Aimé Dionzo, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ce que les pays de la sous-région ont déjà convenu?
Oui, dire qu'il y a du nouveau à première vue relance toute une autre question. Pourquoi les gens se rencontrent chaque fois et reparlent de même sujet? Je crois la préoccupation de tous les Congolais, je crois, je présume, est celle aussi de tous les Rwandais, de tous les Ougandais, de tous les Burundais. Le vrai problème, à mon sens, ce ne sont pas des sécurités. Il faut les prendre au sens plein. La sécurité est un sentiment collectif de se sentir bien, globalement. Alors, lorsque les gens se rencontrent, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major des différentes armées se rencontrent, je crois que c'est pour trouver solution aux problèmes qui se posent.
Oui, ils se rencontrent toujours, mais les problèmes sur le terrain continuent, et c'est dire que leur rencontre ne fait que diminuer un peu la méfiance.
Oui, en principe, le dialogue doit avoir comme objectif chasser la méfiance mutuelle, mais aussi restaurer la confiance mutuelle. En restaurant la confiance mutuelle, on essaye d'être un peu plus proche du problème à résoudre, donc un peu plus proche de la solution. La sécurité, présence des milices dans la sous-région, ces milices sont justement les conséquences des mauvaises gestions des États. Alors, il revient aux États, aux pays concernés, de résoudre le problème de gestion, justement, des ressources humaines, des ressources matérielles. Et lorsque le sentiment de justice et de paix disparaissent au milieu d'une population, naissent alors les divisions. Et je pense que l'occasion qui est chaque fois donnée de dialoguer doit aboutir à cela et faire en sorte que les milices se sentent un peu beaucoup plus sécurisées qu'en retournant au pays. Et ici, je veux dire qu'il y ait effectivement réconciliation et que ces milices soient encadrées, hein, et retournent à la vie normale des populations.
Frédéric Ipani, vous nous suivez depuis Kikwit. Vous êtes correspondant au journal L'Observateur. Vous êtes très loin de là où c'est pas souvent les massacres, c'est-à-dire Goma, Bukavu, dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu, mais cette rencontre, vous l'avez quand même analysée à partir de Kikwit?
Oui, nous avons bien suivi, nous avons suivi à partir d'ici ce qui se passe à Lubumbashi, mais nous avons l'impression comme... on dirait que les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas. On tient des conférences aujourd'hui, demain il y a une autre conférence, demain, après demain encore une autre, mais rien n'évolue sur le terrain et la paix n'est jamais revenue à Bukavu. Alors on se demande pourquoi toutes ces conférences. Hein, au lieu de trouver peut-être une autre solution, de chercher une autre solution, on continue à nous tenir des conférences, mais qui ne produisent absolument rien. J'ai entendu tout à l'heure là le ministre Moussa Niamoussi parler de progrès, mais en réalité il n'y en a pas, parce que la population de Bukavu, la population du Sud Kivu continue à souffrir, continue à mourir. Et il n'y a presque pas de progrès, donc il n'y a aucune solution jusqu'ici. Alors comment on peut dire qu'il y a de l'évolution? Donc personnellement, et selon d'ailleurs le point de vue des gens de Kikwit ici d'une façon générale, il n'y a pas de progrès, il n'y a rien, aucune solution n'est trouvée parce que ces gens-là, la population de Bukavu continue à souffrir.
Alors dans ce studio aussi, Joseph Alain Kabongo du quotidien Les Phares, comment avez-vous analysé cette tripartite de Lubumbashi qui d'ailleurs arrive presque 4 jours après que l'évêque de Bukavu ait haussé un peu le ton sur l'insécurité à l'Est?
Bon, personnellement, je constate que, à l'instar de M. Frédéric, le confrère Frédéric, je constate que c'est encore une réunion de plus. Une réunion de plus sans résultat. Mais d'ailleurs, vous savez que les travaux ont été à huis clos. Nous ne connaissons pas ce qu'ils se sont dit. Parce que, vous savez, moi personnellement, j'ai toujours été inquiet lorsque les délégués congolais vont négocier. Surtout avec les pays amis ou les voisins,
pays limitrophes.
Oui, les pays limitrophes. Et vous verrez que dans la plupart des discussions, nos délégués sont toujours perdants dans beaucoup de discussions. Et lorsqu'on nous dit qu'ils ont discuté à huis clos, nous nous demandons qu'est-ce qu'ils ont réellement discuté, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Parce que nous n'avons suivi la dernière réaction de M. Swing à l'issue des travaux, qui estime qu'on peut mettre quand même la pression militaire, puisqu'on a tenté de rapatrier l'FDLR et ça n'a pas récolté les résultats.
Et cette option avait déjà été tentée, oui.
Oui, oui. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est encore une réunion de plus, c'est pour rien. Les solutions seraient autres, on peut chercher une autre solution, continuer à se rencontrer, parce que ce sont les mêmes pays avec lesquels on discute dans le cadre de notre sous-région, les Grands Lacs. Tout le temps, il y a des rencontres des pays des Grands Lacs qui discutent sur les questions de sécurité, politique, tout ceci-là, et on se rencontre.
Vous avez entendu Antipak Moussa Niamoussi qui dit que les rencontres sont déjà une évolution parce qu'il y a quelques temps, les gens ne se parlaient pas.
Il y en a, mais ils se sont toujours rencontrés depuis longtemps. Il y a des rencontres secrètes que nous apprenons avec vous, que les délégués congolais ont été au Rwanda, ont été ceci, et c'est souvent confirmé quelques temps après. Donc, ils se sont toujours rencontrés. Nous ne voulons plus des rencontres sans résultat. Nous voulons quand même, lorsque ces gens se rencontrent, tellement qu'on puisse voir quand même des choses changer.
Nous reviendrons à vous, à Joseph Alain Kabongo. L'insécurité causée à l'est de la RDC préoccupe aussi les responsables des confessions religieuses. Ils ont également passé 3 jours de forum à Bukavu. Les religieux se proposent de renforcer leurs actions auprès des décideurs politiques et même des groupes armés. Astrid de Mujinga a suivi pour nous cet événement.
Plus d'une centaine de personnes en provenance des pays des Grands Lacs et d'autres délégués y ont pris part. Il s'est agi des leaders des églises et confessions religieuses, des délégués des organisations telles que les forums œcuméniques des Grands Lacs, la conférence des églises de toute l'Afrique, la communauté des conseils chrétiens de la région des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique, c'est le cas en sigle. À l'issue des trois jours de travaux, plusieurs résolutions ont été prises. La principale est l'implication des églises dans le processus de rapatriement de réfugiés, comme l'explique Katunga Murula, conseiller catholique régional de l'ONG catholique Release Services pour l'Est de l'Afrique et facilitateur dans cette conférence.
Elles ont décidé de commencer à prendre contact avec ces groupes armés directement et de jouer leur courroie de transmission avec ceux-là qui doivent leur permettre à se concentrer dans des camps pour le rapatriement, quoi, et commencer à entrer en contact avec les groupes armés, à entrer en contact avec les gouvernants de cette région, à entrer en contact avec l'ONU et entrer en contact avec les partenaires internationaux, et à faire le plaidoyer auprès des gouvernants de cette région et qu'ils prennent des mesures conséquentes pour s'impliquer de façon décisive dans les rapatriements pour que finalement la décision ne soit pas seulement des paroles, mais des actes concrets qui vont amener finalement ces rebelles à rentrer chez eux.
Cette conférence organisée par l'Église de Christ au Congo a bénéficié de l'appui du gouvernement norvégien ainsi que du Centre interculturel de la Norvège et des églises de Pentecôte de Norvège. De Bukavu à Sud Mujinga.
Voilà, Sud Mujinga, merci. Frédéric, vous nous suivez depuis Kikwit. Alors, vous n'étiez pas très favorable à ce que les rencontres politiques continuent, mais est-ce que les rencontres des religieux peuvent aboutir à des implications concrètes?
Ah oui, peut-être avec les évêques, s'ils peuvent prendre contact avec les pays limitrophes, leurs collègues des pays limitrophes, peut-être que ça peut marcher. Mais je vais vous rappeler une chose ici, j'ai suivi lors de la présentation du projet de budget au Parlement, j'ai suivi Madame Vicky, députée je crois de Walungu, qui a fait une motion incidentielle là. Alors dans cette motion, il était dit ceci, que au niveau du Kivu, on demandait à ce que on puisse, disons c'est une proposition qu'elle a faite, qu'on puisse amnistier tous les FDLR, donc tous ces gens-là qu'on puisse les amnistier, et que le pays, à notre niveau ici, que notre gouvernement puisse prendre contact avec les pays voisins, et que la communauté internationale puisse organiser une réunion quoi de réconciliation peut-être au niveau du Rwanda. Hein? Comme ça, les FDLR peuvent rentrer chez eux, au lieu d'être tués comme ils craignent qu'ils soient tués, alors on peut les recevoir et la communauté internationale peut organiser une grande réunion de réconciliation. C'est pour permettre justement à ces membres du FDLR de rentrer chez eux et de laisser en paix la population de Bukavu et des environs. Disons
Frédéric Ipani, restez avec nous. Aimé Dionzo, vous n'êtes pas d'accord vraiment avec ce qu'il vient de dire, mais peut-être est-ce là les débuts aussi d'une réconciliation entre Interahamwe et le gouvernement de Kigali.
Oui, je crois qu'il y a eu une passerelle politique entre le gouvernement de Kigali, notre pays, mais aussi la communauté internationale à travers le DDR international. Elle a montré ses limites, mais aussi ses avantages. Mais alors, du point de vue de la diplomatie, lorsque les confessions religieuses s'investissent, je crois, généralement, les confessions religieuses n'ont pas besoin de faire du tapage au sujet des actions qu'ils mènent. Et lorsque je vois l'implication, disons, la médiation de la Caritas américaine, la CRS, Catholic Relief Service, je vois aussi d'autres confessions religieuses ensemble avec l'Église catholique travaillant ensemble. J'ai suivi, ils proposent entre des espaces écuméniques des réconciliations, des pardons. Cela peut aider.
C'est-à-dire qu'il y a toutes les confessions religieuses.
Les confessions religieuses qui pensent qu'il ne faut pas apporter une solution à la paix, à la justice. Et la question des FDLR est une question internationale et nationale à la fois. D'une part, ce sont des résidus, disons, ceux qui avaient fui la guerre au lendemain du génocide de 1994. Il y avait une part de la communauté internationale à la suite de l'opération turquoise. Ces gens sont devenus réfugiés armés. Ils n'ont pas eu le temps d'être désarmés et sont dans la partie est du pays.
Et ils ont eu
de notre pays à l'époque.
Oui, ils ont eu des alliés congolais.
Ils ont eu des alliés congolais entre-temps, pendant ce temps, parce que il faut souligner en passant, lorsqu'on parle de problèmes de gestion d'espace de vie, cela s'entend. Du côté du Rwanda, ces gens, donc ils ont peur de retourner pour y vivre. Il y a aussi problème d'espace vital. Il y a des terrains presque inoccupés sur le sol congolais. Préfèrent y rester, alors vivre des rapines, des ressources illégales, disons des richesses qu'ils exploitent illégalement, de l'or, du coltan qu'ils ramassent. Ils seraient les serres justement pour vendre, se nourrir. On voit dans plusieurs cas, suivant des reportages de nos confrères, qu'il y a ce genre, puis souvent les populations locales. Alors, les confessions religieuses ont leur base, ils feront ce qui leur revient, notamment contacter les autorités politiques,
dialoguer.
Il y a aussi un volet international, l'implication du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit examiner à fond dans ce qui lui revient, notamment qu'à la suite de l'opération la turquoise, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous avons des FDLR, Rasta. Alors aujourd'hui, il faut penser justement à toutes ces questions-là, trouver d'autres passerelles pour le retour de ces gens. Et là, il y a justement un problème politique, un problème de tolérance politique de la part du gouvernement des Grands Lacs.
Joseph Alain Kabongo, vous êtes du quotidien Le Phare. Qu'est-ce que les religieux peuvent faire là où les militaires et la politique semblent boiter?
C'est pratiquement la question que je me suis aussi posée. Moi, je pense que d'abord la télé qui vient d'avoir lieu dans l'est du pays, c'est une initiative à saluer, mais le problème est que tout se limite, c'est pratiquement une déclaration d'intention. Ah, nous devons rencontrer, on va faire ceci.
Il reste le concret.
Oui, oui, le problème maintenant, c'est passer aux choses concrètes. Comment prendre contact avec telle ou telle autre partie afin d'avancer? Parce qu'il ne se peut pas seulement se rencontrer. Vous connaissez que notre pays, actuellement, on est spécialiste en séminaires, ateliers et plein de trucs comme ça. Et moi, j'estime qu'on peut passer directement aux actes et puis là, on serait avancé. Le problème de FDLR, c'est un point vraiment complexe. Et la démarche des religieux, vous trouverez qu'elle est diamétralement opposée à celle des autorités militaires, des FARDC, qui ont déjà amorcé des opérations militaires contre les FDLR avec les brigades mixtes pratiquement dans tout l'est du pays. Mais nous nous demandons comment ça va se faire. Au contraire, on doit d'abord penser à ça. Comment demander d'abord aux autorités militaires d'arrêter leurs opérations et ou d'abord chercher les FDLR, qui sont tellement éparpillés.
Ne peuvent-ils pas aller sur tous les fronts?
C'est ça le problème, bon.
Oui, mais je vais vous dire quelque chose.
L'approche des problèmes, quand il faut voir les choses de l'un d'un peu plus positif.
Très rapidement, on va terminer.
Chaque fois qu'il y a un dialogue, et c'est donc une occasion de creuser encore dans les esprits, de sortir de nouvelles idées. Ce ne sont pas des rencontres pour rien. En ce qui concerne le FDLR, je crois qu'il y a deux volets qui sont souvent mis en œuvre, des moyens politiques et des moyens militaires. Oui. Je crois que des moyens militaires, à mon avis, ne sont pas des solutions plausibles à ce niveau, parce qu'on trouvait des limites. Et il faut aussi penser aux conséquences de déplacement des populations, aux exactions qui ont eu lieu lors des opérations militaires dans un camp comme dans un autre. Alors, je pense qu'il y a lieu d'envisager des solutions politiques tout en maintenant des pressions d'action militaire.
Tribune de la presse qui revient sur les faits marquants de la semaine qui s'achève. Dans ce studio, Aimé Diozo, rédacteur en chef de la radio catholique Elitia Kinshasa, Joseph Alain Kabongo du journal Le Phare, en ligne depuis Kikwit, Frédéric Ipani, correspondant au journal L'Observateur. Nous le disons tantôt, après 3 jours de discussions houleuses entre le gouvernement central et les autorités de province, un consensus a été trouvé. Les provinces retiendront les 40% de leurs recettes à partir de septembre. Mais d'abord, une commission pour travailler sur les modalités. Alors, satisfaction? C'est la question à laquelle a répondu le gouverneur de l'Équateur dans l'émission Dialogue entre Congolais de cette semaine.
Moi, je pense que le problème n'est pas d'être satisfait. Non, là n'est pas la question. La question est que la Russie publique est gérée à partir des textes. Et nous avons à notre disposition un document juridique qui s'appelle la Constitution. Et dans cette Constitution, en son article 175, alinéa 2, c'est clair. Les taxes à caractère national sont retenues à la source à une hauteur de 40% pour analyser. Cela n'attendait pas une loi organique quelconque. Nous avons constaté avec tout le monde que cette disposition est violée. Les provinces et le gouvernement français, c'est le provincial du gouvernement, comme se le dise. D'ailleurs, dire que c'était, monsieur, vous êtes en train de violer la Constitution, et que vous pouvez nous dire pourquoi. Et donc, vous l'avez fait, est toujours inévitable, on a trouvé la solution en disant qu'il y a une commission paritaire pour voir la légalité, la praticabilité de cette disposition constitutive. Voilà ce qui est passé là, jusqu'à ce niveau.
Mais est-ce que vous avez accepté cette décision qui a été annoncée publiquement par le ministre ou pas?
Le ministre a nous, le compte est rendu. Ce n'est pas une décision émanant du gouvernement central. Non. On s'est mis ensemble, on s'est dit, voilà où se tire de cette impasse. Parce qu'au fait, le pays était dans une impasse. C'est ça la réalité. Et pour sortir de cette impasse, les institutions provinciales, comme le gouvernement central, c'est seulement aussi une table, et c'est autour de cette table qui s'est dégagé ce consensus en quelque sorte.
Donc, au moins, vous avez accepté ce consensus.
José Makila, gouverneur de l'Équateur, interrogé par Jean-Claude Toumba Kamanga. Alors, Joseph Alain Kabongo, est-ce une avancée dans ce qui allait devenir une crise entre institutions provinciales et centrales?
D'abord, j'aimerais faire remarquer que les questions d'argent semblent quand même mobiliser nos dirigeants. Et vraiment, je constate qu'il y a eu un empressement pour le partage des recettes de l'État entre les différentes institutions, alors qu'il y a aussi des problèmes précieux qui pouvaient être traités aussi avec priorité.
Donc, vous voulez dire que les autorités provinciales réclament cet argent, pas nécessairement pour servir les intérêts de leur population?
Là, encore faudra-t-il savoir si, une fois les recettes rétrocédées, ces recettes vont réellement servir au développement de nos entités provinciales. Parce que vous le voyez déjà les débuts, surtout dans certaines assemblées provinciales où tel groupe politique est majoritaire et que les gouverneurs est du groupe minoritaire. Vous sentez que le gouverneur est appelé tout le temps à soigner les...
Il y a mes chances, oui, nous en parlerons
en troisième. Moi, je vous dis maintenant, ces recettes, est-ce que ça va servir, ça va servir au développement ou à soigner les députés provinciaux? Mais c'est quand même une avancée. Mais c'est constitutionnel, comme l'a dit le gouverneur Makila, on ne pouvait pas discuter là-dessus. L'État devait comprendre qu'on doit rétrocéder les 40%. Donc c'est constitutionnel, ça ne demandait pas de discussion, mais nous devons saluer quand même ce consensus pour qu'on vienne d'éviter une impasse.
En attendant que la commission annoncée par le ministre d'État Denis Kaloumé se mette en place, qu'est-ce qui va se passer? Comment les provinces vont-elles travailler? Ce sont ces questions qui poussent certains acteurs politiques à avoir une réaction mitigée sur ces conclusions. C'est le cas de Cléophas Kamikaze.
Moi, j'ai une opinion tout à fait mitigée pour la raison suivante. Généralement, on dit que quand on veut enterrer un dossier, on l'envoie à la commission. Donc, envoyer ce dossier à la commission alors que les besoins sont urgents, immédiats, ne me paraît pas une bonne solution, premièrement. Deuxièmement, je dis la constitution doit être respectée. Si pour des raisons d'ordre financier, on ne peut pas appliquer cette disposition de la constitution immédiatement, c'est ça qui fait expliquer au peuple pour dire qu'on n'a pas assez d'argent maintenant pour appliquer et indiquer que ça doit être appliqué. On met en commission avec l'espoir que le 1er septembre, ça pourra commencer. Quelle garantie donne-t-on aux assemblées provinciales, au peuple? Parce que nous, nos présidents et nos gouverneurs sont partis discuter. Ils ont dégagé, semble-t-il, un consensus forcé, me paraît-il.
Donc vous semblez être sceptique, Kamita Thomas Samba.
Moi, je suis sceptique parce que nous, dans les assemblées provinciales, nous attendions à ce que le gouvernement soit très dur. On va commencer à appliquer, mais qu'étant donné qu'il y a des difficultés d'argent, bon, on ira, on commencera lentement, mais qu'on va aller de progrès en progrès, de mois en mois. Mais renvoyer cela en septembre ne me paraît pas tout à fait correct. Deuxièmement. Troisièmement, je voudrais demander, que va-t-il se passer d'ici septembre? Le ministre de l'Intérieur, dont j'ai entendu le communiqué, n'a pas annoncé ce qui va se passer d'ici septembre, à part la commission, mais les ressources des provinces d'ici le mois de septembre, comment seront-ils dévolus aux provinces? Par quel mécanisme? Ce mécanisme, on ne le connaît pas.
Théophas Kamitatou, député provincial du Bandundu, qui passait cette semaine à dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Tumbakamanga. Alors, Frédéric Ipani, vous nous suivez à Kikwit. Quel est votre commentaire après avoir écouté tous ces intervenants?
Non, c'est vrai Alain, et je pense que si la constitution a prévu que 40% des recettes soient rétrocédées aux provinces, il faut qu'on les fasse. Et si on ne peut pas le faire, il faut communiquer, il faut expliquer aux gens, pour que les membres de l'Assemblée se soient informés. Donc on ne peut pas négliger cet aspect des choses. Et puis des deux Alain, j'ai l'impression que les assemblées provinciales insistent beaucoup sur les 40%. Mais elles oublient aussi qu'elles ont des recettes. Elles doivent commencer dès maintenant à chercher des recettes, donc des sources de recettes au niveau de la province. Mais ils sont trop, disons qu'ils préfèrent résister sur les 40% et ils oublient les recettes normales, les recettes au niveau des provinces qui doivent permettre justement à celles-ci de se développer. Moi, je pense qu'il faut beaucoup insister de ce côté-là que de se tourner sur les 40%. Parce qu'on ne sait pas si, avec les recettes locales, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 40% qu'ils vont recevoir du gouvernement?
Alors, 40%, c'est 40% des recettes des provinces. C'est-à-dire que si la province produit peu, elle aura peu dans ces 40%. Mais le fait déjà de répartir, de donner cela aux provinces, Aimé Dionzo, ça pourra aider à développer les entités décentralisées, comme l'a dit Joseph Alain Kabongo tout à l'heure.
Bon, je pense que la disposition qui a provoqué les tollés, la polémique, je crois que c'était presque pour rien d'une part. De l'autre, je crois qu'il fallait éclaircir. En fait, j'ai l'impression que la disposition constitutionnelle à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, article 175, et permettez-moi de lire, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition. S'agissant de cet alinéa 2, je pense, et j'ai bonne mémoire, que les discussions entre les assemblées provinciales et les ministres du budget avaient été parvenues à un consensus, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois. Et lorsqu'on fait la comptabilité, 3 mois, c'est au mois de septembre. C'est dire en fait que ces assemblées provinciales avaient obtenu une réponse auparavant par le ministre Adolphe Mozito du budget. Et donc, à ce niveau, je note aussi, j'ai bonne mémoire, des propos de M. François Kimasi, porte-parole de ces assemblées provinciales, avait dit qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et tout était devenu clair. Et nous attendons donc des dispositifs juridiques qui devaient mettre au clair tout cela. Et la discussion, à mon avis, devait plutôt être portée justement sur la mise en place d'une commission technique qui devait aller tout droit au but, travailler sans doute avec le Parlement de manière informelle, pour pouvoir rédiger la loi sur
la décentralisation,
la loi sur les finances publiques, parce qu'il est dit dans les mêmes textes de loi, article 202, que les finances publiques font partie des pouvoirs, sont de la prérogative exclusive du pouvoir central. Donc, et à ce niveau, nous devons avoir une compréhension assez éclairée. À mon avis, je pense, lorsqu'on dit 40%, elle est retenue à la source, c'est-à-dire la part de recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%, elle est retenue à la source. Retenue à la source, selon la loi en République démocratique du Congo sur les finances, c'est dire le compte de l'État ne peut pas se promener entre les mains d'un individu. Ces fonds sont déposés auprès d'une banque, la Banque Centrale ou ses succursales, et c'est à partir de la banque qu'on reçoit ce à quoi on a droit. Et à ce niveau, les provinces, suivant l'idée, je crois, la bonne intention de tous ceux qui ont rédigé les textes de loi, était de faire en sorte que la formule ancienne, qui était basée sur les quotités provinciales, chaque province envoie tout ce qu'elle reçoit.
Ça, c'est une rétrocession, en fait.
L'État, lui, rétrocède 40% pour fonctionner, a été tout simplement allégé en disant, écoutez, vous retenez à la source. Retenez à la source, c'est-à-dire vous déposez les fonds à la banque.
Mais le fond de la question, le fond de la question, c'est que cette guerre va profiter vraiment aux populations, c'est ça le fond de la question.
Bon, là, c'est une autre question, c'est-à-dire que nous espérons et nous croyons que la mise sur pied des parlements provinciaux doit aider, entre autres, à contrôler la gestion du gouvernement provincial aux côtés justement du travail que fait la Cour des comptes et les autres instances réputées à cela. Et je voulais, vous permettez, ajouter à cela. Et je pense aussi que le travail à faire au fond, c'est un travail qui exige transparence dans la gestion. Lorsqu'il y a transparence, je crois que la méfiance sera un peu amenuisée et nous pourrons travailler avec sérénité.
Joseph,
le plan de la peste de 40% a été trop long et trop polémique pour rien.
Joseph Alain Kabongo, vous étiez plutôt sceptique. Hein? Après tous ces commentaires, oui. Quelle est votre analyse?
À un certain moment, j'ai entendu René Cyprien donnait l'impression que la rétrocession était une innovation. Une innovation, non, mais l'impression que j'ai eue.
S'il vous plaît, ce que j'ai dit, la formule 40% est une copie un peu allégée de ce qui se faisait déjà.
Oh, on va laisser Joseph aller.
C'est parce qu'on a éprouvé ces difficultés, l'État n'arrivait toujours pas à rétrocéder l'argent, les fonds aux entités administratives décentralisées à temps. Et au moment voulu, c'est ainsi que le constituant a estimé que ça devait se faire à la source. Tout ça, c'est dans l'unique but de permettre aux entités administratives de se développer. Moi, j'estime que non, nous devons encourager cette vision du constituant congolais, mais c'est aux assemblées provinciales de mieux contrôler la gestion de ces fonds ici.
Tribune de la presse qui revient sur les faits marquants de la semaine qui s'achève dans ce studio. Aimé Dionzo, rédacteur en chef de la radio catholique Elikia, Joseph Alain Kabongo du journal Le Phare et en ligne de Kikut, Frédéric Ipani, correspondant au journal L'Observateur. Troisième et dernier sujet que nous abordons, c'est la méfiance entre certains gouverneurs et leurs assemblées provinciales. Au Kasaï occidental, c'est connu, les députés ont voté pour l'éviction du gouverneur Trésor Kapoukou. Basile Bakumba a suivi pour nous l'ambiance même de la séance de ce jeudi à Kananga.
Il avait fallu plus de 5 heures de débat houlé pour parvenir à départager les tendances dans l'Assemblée provinciale. Dans un climat de tolérance mutuelle, chaque famille politique a présenté ses arguments. Jusqu'au moment de vote, le point de vue sont restés opposés. Quand les uns soutenaient que cette motion de défiance était recevable mais non fondée, les autres la trouvaient inattaquable. C'est seulement aux environs de 19h locales que le vote secret est intervenu. Mais quelques minutes après, la salle a connu la coupure d'électricité. En dépit de cela, les députés déterminés à aller jusqu'au bout ont usé des projecteurs de caméras, de lampes torches et bougies. Et la police venait sécuriser la salle a si bien accompli sa tâche. À l'issue du vote, la motion a été adoptée à 29 voix contre 24. Ce qui revient à dire que la motion est adoptée, étant donné que la loi exige la majorité absolue, soit la moitié plus une voix. Pour l'Assemblée du Kassai occidental, qui est composée de 54 membres, 28 voix suffisaient déjà. D'après les articles 147 et 198 de la Constitution de la République, le gouverneur du Kassai occidental est réputé démissionnaire. Et l'article 160 de la loi électorale stipule qu'il revient à la Commission électorale indépendante d'organiser les élections dans les 15 jours qui suivent pour combler cette vacance. Kananga, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Joseph Alain Kabongo, quelle est votre analyse de cette situation qui arrive au Kassai occidental?
Bon, c'est la démocratie, nous l'avons voulu. C'est l'Assemblée qui a décidé, par une motion de défiance, de mettre des gouverneurs. C'est la démocratie, nous devons en tirer les conséquences. La majorité UN qui compose l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental, on s'y attendait qu'à un certain moment, il y aurait retournement de la situation.
Et c'est ce qui est arrivé.
Est-ce qu'on peut dire que la position pas claire du RCD dans la gestion de ses alliés est à la base de cette éviction, parce que Trésor Kapoukou est quand même du RCD?
Non, mais vous constaterez que parmi les raisons soulevées par les députés provinciaux pour défier le gouverneur, il y avait entre autres le manque de collaboration avec l'Assemblée provinciale. Vous savez, à un certain moment, le gouverneur Kapoukou a entrepris une tournée vers Tikapa. Et c'était à l'origine d'une tension au niveau de l'Assemblée, parce que l'Assemblée avait estimé que le gouverneur était allé vite en besogne. Il n'avait pas attendu l'autre. Et le gouverneur, vous savez, dans ses réactions, il n'était pas trop courtois avec l'Assemblée provinciale. Même le président de l'Assemblée provinciale qui était ici à Kinshasa s'est plaint d'avoir été déguerpi de sa résidence. Vous constatez qu'il y avait déjà des relations très tendues.
Et Trésor Kapoukou conteste cette démarche, en fait.
Bon, s'il conteste, il va le contester peut-être devant les tribunaux. Ben, la loi est claire. Et Basile a bien lu la loi, et c'est ce qui est dans la loi, à moins qu'il y ait d'autres implications maintenant.
Alors, Frédéric Ipani, au Bandundu, il n'y a pas de méfiance entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale?
Bon, jusqu'ici, il n'y en a pas, mais dans les coulisses, on en parle. Hein. Et, Alain, je voulais vous dire aussi que Kananga vient de donner le ton, et je suis en train de craindre que ces motions puissent aller d'une province à l'autre. Vous avez souligné au départ que, au même niveau de Kinshasa et de Bukavu, il y a déjà des motions. Alors, il faut craindre que ça se multiplie de gauche à droite et que les députés ne fassent plus leur travail convenablement, ou qu'ils pensent simplement à des règlements de comptes pour écarter ceux qui ne sont pas de leur obédience ou ceux qui ne sont pas leurs amis. Donc, il faut craindre cet aspect des choses dans l'avenir. Sinon, alors, en réalité, le travail ne va plus se faire. Hein, le travail de développement, le travail que nous leur avons confié ne va plus se faire, et les gens vont se retourner seulement sur les motions pour écarter leurs amis.
Mais Frédéric Ipani, comment expliquez-vous le fait que ce sont ces assemblées provinciales qui ont élu les gouverneurs et que les gouverneurs n'ont pas encore commencé à travailler comme il faut, qu'il y ait déjà des censures?
Oui, mais c'est ça justement le problème. On ne comprend pas très bien. Nous avons suivi ce qui se passe à Kinshasa, par exemple, ou avec le gouverneur André Kimbuta. Et il y a même quelqu'un qui a souligné, je crois, parmi les gens, les sympathisants, qui a dit que on ne peut pas comprendre que André Kimbuta, il n'a pas encore commencé le travail, mais déjà on le juge, on cherche à l'écarter. Donc c'est un peu un problème qui risque de s'étendre partout. Et je crois que ce sont des petits gloutons, ce sont des gens qui trouvent qu'ils sont pour les hautes toits que je m'y mette. Alors cela ne peut pas faire avancer les choses au niveau des provinces.
Et Medionzo, est-ce que c'est votre avis aussi que ces évictions sont les conséquences des leaderships, des luttes des leaderships au sein de provinces?
Je pense qu'il y a lieu de dire oui d'une part, parce que là, je crains qu'on fasse un peu la politique émotionnelle, comme on a souvent l'habitude de le voir à Kinshasa et dans notre pays depuis plusieurs années, et que le débat de fond ne soit pas souvent engagé sur des vrais problèmes. Et on doit savoir effectivement, moi je n'ai pas connaissance exacte de ce qui est à l'origine de la motion de méfiance contre le gouverneur de Kasaï Occidental.
C'est entre autres les mauvaises relations avec le gouvernement, disons l'Assemblée provinciale.
Oui, ce sont des arguments un peu émotionnels à mon avis jusque-là, si on doit apprécier seulement à ce niveau-là, c'est-à-dire mauvaises relations, la tête d'Alain Joseph Alvin ne me plaît pas, alors je m'organise avec un groupe de copains pour le faire partir, puisque nous sommes majoritaires. Et là, nous allons faire une république, donc ce sont des républicaines qui sont déjà très dangereuses par rapport à la formule que nous avons adoptée. Mais je note en même temps que c'est un exercice démocratique. Nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Je pense que ça nous renvoie un peu aux années 60 de notre pays, comme nous avons vu dans les manières d'histoire. Nous allons réapprendre à faire marcher l'État, et sans doute il faudra encore d'experts européens, belges, je ne veux pas dire qu'il vienne, hein, pour nous aider à diriger une province.
Alors, Frédéric Ipani disait que c'est Kananga qui donne le ton. Est-ce qu'on peut dire que la même chose arrivera au Nord Kivu, par exemple?
Oui, ça va. Là, il faut craindre, justement. Je pense que je ne suis pas juriste de formation, mais je pense que quelque part, in fine, la Cour constitutionnelle, dont les prérogatives sont jusque-là gérées par la Cour suprême de justice, mais aussi en dernière instance, le président de la République peut entamer les consultations à la suite des motions de méfiance contre certains dirigeants, essayer de remettre l'ordre dans la communauté, puisque nous craignons justement de voir cette étincelle, cette ébullition commencer là-bas et le sinistre va s'étendre et nous serons justement, au lieu d'avancer justement à travers les 40% qui seront récupérés à la source, travailler pour le développement de nos populations, nous allons faire participer notre peuple à notre lutte intestine et des querelles émotionnelles qui sont sans fin et qui nous ont amenés justement dans cette misère.
Joseph Alain Kabongo, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, moi je pense que l'éviction des trésors Kapuku, c'est comme si on vient de donner les temps et on peut se demander à qui le prochain tour. Et vous constaterez que pour peut-être ceux qui se trouvent dans le camp des Luyen, il se dirait que les choses tendent maintenant à se normaliser. C'est-à-dire que dans des assemblées où l'UN est majoritaire, vous vous rappelez ce qui s'est passé lors des élections du gouverneur, là où l'UN était majoritaire, c'est plutôt un gouverneur AMP qui passait. Je pense que l'UN aujourd'hui a compris que l'heure est arrivée pour régler les comptes et reprendre toutes ces assemblées. Je suis persuadé que la motion censée contre le gouverneur Julien Paluku au Nord Kivu risque de ne pas passer. Surtout lorsqu'on sait qu'au Nord Kivu, cette assemblée est majoritairement AMP. Mais dans d'autres provinces, même malgré la dextérité d'André Kimbuta, qui a réussi à passer son programme, je vous assure que ça ne serait que partie remise. Dans les prochains jours, on risque d'assister pratiquement à la même situation. À moins que on recourt à des moyens rhétoriques que l'on connaît et qu'on a toujours décrié dans ce pays. À un certain moment, on approche les députés, on les appelle, on les soigne.
On négocie en douceur. Vous voulez dire qu'on négocie en douceur?
Bon, négocier, c'est-à-dire les soigner aux petits oignons et c'était fini, on travaille comme ça. Mais ça fragilise quand même le secteur provincial, tout le temps, d'émotion. Et non seulement on dépense l'argent pour apaiser ces gens, et le gouverneur a des énergies tellement dispersées, il ne peut pas se concentrer sur une chose pour avancer le débat.
Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Frédéric Ipani, à Kinshasa, il y avait le même suspense, mais finalement, le gouvernement Kimbuta a été investi. Quel est votre commentaire là-dessus?
Ah, mais c'est comme disait mon compère tout à l'heure, le gouvernement a été investi, mais ce n'est pas la fin. Hein, comme c'est Mouniou qui est majoritaire dans cette assemblée, du coup, nous attendre à autre chose demain. Donc, Kimbuta, il va travailler, mais il sera tout le temps en insécurité. Et il ne pourra pas faire quelque chose sans pouvoir avoir des problèmes. Il est déjà visé et il faut vous dire que l'Union qui est majoritaire ne va pas s'arrêter là. Donc, les démarches vont se poursuivre. Cette fois, il a échappé à la gueule de ces gens et demain, certainement, il sera pris. Alors, ça sera comme ça tout le temps.
Bon, on peut bien se demander, mais Dionzo, à qui profite cette guerre entre gouverneur et assemblée provinciale?
On peut penser que ça ne profite à personne, mais à voir de près, c'est comme s'il y a des gens qui tirent des ficelles à gauche, à droite, pour leurs appétits, qui pensent à eux-mêmes d'abord, une espèce de chantage. Hein. On ne fait pas tellement la politique comme noblesse, comme on l'a appris dans l'histoire de la philosophie avec Platon, Aristote, mais on fait un peu une politique de plaisanterie. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur le vote du programme du gouverneur de la ville. Tout le monde était surpris et le vote s'est déroulé, je crois, tout au plus en 3 minutes. c'était terminé.
En l'absence quand même de députés provinciaux, de plusieurs députés provinciaux de l'Union pour la Nation, de l'opposition.
Oui, je voudrais même emprunter les commentaires. Ils sont en majorité et j'emprunte les commentaires de nos confrères de la presse écrite. Certains sont allés droit au but pour dire qu'il y a un problème de responsabilité politique de ceux qu'on a élus.
La responsabilité politique, c'est-à-dire les gens ne s'assument pas?
Normalement, la responsabilité s'entend comme la prise en compte de sa propre destinée et de celle des autres. Et lorsqu'on sent justement sa propre destinée, on crée l'insécurité autour de soi. Et nous sommes justement dans un cas d'espèce. Avons-nous, nous pourrons nous poser alors des questions, avons-nous des députés ou alors des commissaires provinciaux qui sont envoyés pour parler d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et lorsqu'on a des députés, justement, on a pensé, moi j'ai pensé vraiment que ces députés prenaient à cœur leurs responsabilités et devaient être dans la salle, puisque la place où ils sont censés être, c'est la salle où se tenaient justement les votes, pour exprimer leur point de vue, puisque un député n'a pas de vie cachée, n'a pas de vie, je voulais dire, de vie privée, entre guillemets. Il devait exprimer son point de vue publiquement pour qu'on sache il est pour ou il est contre, et non s'absenter. Ça, c'est une petite responsabilité.
Fin de cette tribune de la presse. Merci d'y avoir été. Et merci également à tous nos confrères pour leur présence. Le programme continue sur Radio Okapi. Bon week-end à tous. Thank you.